soirée à l'écoute d'Europe 1. Il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal et à la une. Ce soir, des adieux, ceux de Tony Parker après 20 saisons professionnelles, dont 18 aux États-Unis. À 37 ans, il décide de mettre un terme à son immense carrière. Le chauffard de Lorient qui a tué un enfant et en a grièvement blessé un autre, toujours activement recherché, c'est un récidiviste déjà condamné pour conduite sans permis. La ville des Sables-d'Olonne rend hommage, encore une fois, à ses sauveteurs en mer. Emmanuel Macron sera sur place jeudi pour décorer les trois héros. Une femme meurtrie, Latifah Ben Ziaten, la mère de la première victime de Mohamed Merah, elle qui prône depuis la tolérance, a découvert ce matin des tags insultants et menaçants sur son domicile. Le malaise s'amplifie aux urgences. L'intersyndicale appelle tous les personnels hospitaliers à une grande journée nationale de mobilisation demain. C'est le plus grand massacre commis en France contre des civils par les armées allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, celui d'Oradour-sur-Glane qui a coûté la vie à 642 villageois. 75 ans plus tard, il ne reste plus qu'un survivant. De nouveaux enfants de djihadistes rapatriés par la France, ils sont 12, dont 10 orphelins. Côté météo, la journée de demain, autant vous y préparer, sera la pire de la semaine, la plus déprimante aussi. Ciel gris et pluie, pratiquement pour tout le monde. Prévision complète d'Hélène Horna à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Bertrand Cizeau. Il est le directeur de la communication du groupe BNP Paribas, partenaire historique du tournoi de Roland-Garros. On fera un bilan de cette quinzaine côté business.
Europe 1.
Et c'est donc un immense champion qui met ce soir un terme à sa carrière.
Je vais prendre ma retraite. J'ai décidé de ne plus jamais jouer au basket.
Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision ?
Beaucoup de choses, mais au final, je me suis dit que si je ne peux plus être Tony Parker et que je ne peux plus jouer pour un championnat, je ne veux plus jouer au basket.
Tony Parker, 18 ans passé en NBA, 4 titres de champion et beaucoup d'émotions au moment de tirer sa révérence. J'ai beaucoup travaillé, j'ai énormément reçu, écrit-il sur Twitter. C'était une aventure incroyable. Simon Rubin, on peut dire qu'il est le basketteur le plus populaire de l'histoire de ce sport en France.
Tony Parker, oui, c'est une icône, hein, légende du basket français, taillée pour rayonner à travers le monde, hein, né en Belgique, d'un père américain et d'une mère néerlandaise. C'est pourtant en France qu'il grandit et apprend le basket, hein, en suivant finalement son père, Tony Parker, senior, qui était lui-même joueur et qui a fini sa carrière en France. Et manifestement, le talent pour ce sport avait quelque chose d'héréditaire. Parker impressionne dès le plus jeune âge. Il va jouer au niveau pro un petit peu en France, mais très vite, il va partir pour les États-Unis, la NBA, et là-bas, il va se trouver un père adopté. Greg Popovich, un entraîneur hors du commun qui va l'accompagner quasiment toute sa carrière du côté des San Antonio Spurs. Parker débute en NBA en 2001 et les titres s'enchaînent, les récompenses pleuvent. Il devient quadruple champion NBA et il va aussi porter l'équipe de France, notamment champion d'Europe en 2013, quart de finaliste aux Jeux. Il est parmi les sportifs préférés des Français. Il est aussi parmi les plus riches. Cet argent d'ailleurs, hein, il en a investi une bonne partie dans son club de cœur, l'ASVEL, à Villeurbanne. Là encore, ses débuts de manager sont prometteurs. Hein. Parker, c'est vraiment l'histoire d'un don et surtout d'une détermination. Ses entraîneurs, ses coéquipiers saluent la réussite d'un ambitieux, raisonnable, d'un homme sûr de lui, mais jamais orgueilleux. Parker, à l'image de ses shoots, c'est une trajectoire parfaite, précise, audacieuse, équilibrée.
Simon Rubin du service des sports.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet.
Il est toujours activement recherché. Ce chauffard qui, à Lorient, a fauché hier 2 enfants, tuant l'un d'eux, âgé de 10 ans, le plus jeune qui a 7 ans, est grièvement blessé. Guillaume Billet, du service police-justice de la rédaction d'Europe 1, que sait-on, Guillaume, de ce chauffard ?
Eh bien, on sait qu'il a 20 ans, qu'il vit dans le secteur et surtout qu'il est connu de la police. Il a déjà été arrêté, notamment pour des délits routiers, conduite sans permis, conduite sous l'emprise de la drogue. C'est sans doute pour ça qu'il a pris tous les risques pour échapper aux forces de l'ordre, puisqu'hier, il était au volant de la voiture de sa mère et qu'il conduisait donc une nouvelle fois sans permis, avec à côté de lui une jeune femme de 21 ans. Quand ils sont tombés sur un contrôle routier à Quévin, le jeune homme a fait mine de s'arrêter, puis il a redémarré en trombe, aussitôt poursuivi par des motards de la gendarmerie, mais qui ont rapidement abandonné vu les risques que prenait le chauffard lancé à pleine vitesse sur une large voie de bus qui plonge vers le centre-ville de Lorient. Il a d'abord percuté une voiture sans faire de blessés avant de faucher les 2 enfants, 2 garçons de 7 et 10 ans qui étaient sur le trottoir. Le plus âgé, vous l'avez dit, a succombé à ses blessures à l'hôpital. Le second est toujours en soins intensifs. Le conducteur et sa passagère ont pris la fuite. Ils ont abandonné leur voiture quelques centaines de mètres après le choc, se sont évaporés à pied dans les rues de Lorient. Et depuis hier soir, eh bien, les policiers mettent tout en en œuvre pour les retrouver, les interpeller. Les recherches sont toujours en cours.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Emmanuel Macron se rendra jeudi au Sable d'Olonne pour rendre hommage aux trois sauveteurs de la SNSM qui ont péri vendredi en portant secours à un bateau de pêcheurs. Cet après-midi, François Coulon, la population s'est rassemblée nombreuse pour exprimer son émotion et sa solidarité avec les familles.
Effectivement, toute une ville bouleversée qui défile lentement dans un silence impressionnant derrière une centaine de sauveteurs de la SNSM venus d'une quinzaine de ports de l'Atlantique. À leur passage, la foule applaudit ces anges gardiens de la mer et rend hommage aux trois disparus, Michel.
Ils sont partis avec une mer déchaînée et ils sont quand même partis parce qu'il y avait quelqu'un en détresse. Donc j'ai beaucoup d'admiration. Je pense à ceux qui restent aussi et qui ont perdu leurs proches. Il faut être là pour témoigner de notre admiration. Quoi, mais en même temps de notre peine. Ils n'ont pas hésité un instant. Ce sont des héros, ils méritent vraiment que M. Macron les décore.
Alors que le cortège s'avance vers les rochers, théâtre du drame, l'hommage au large d'une centaine de bateaux, cornes de brume, fusées de détresse et fumigènes, avant un long recueillement, Yvette.
Je viens pour soutenir les familles qui sont dans la misère. J'ai mal au cœur pour tous ces morts. Je viens les soutenir et puis si je peux faire un don, je vais le faire. Parce que ces jeunes femmes-là vont rester toutes seules et je trouve que c'est difficile. Il faut se mettre à leur place. Beaucoup de respect pour ces gens-là.
Voilà, beaucoup de roses blanches déposées. Une dernière fois, les Sablais saluent avec un immense respect les hommes de la SNSM.
François Coulon au Sable d'Olonne pour Europe 1. C'est bientôt à toi, salle juive. Vive Mera. Ses inscriptions, Latifa Ibn Ziaten les a découvertes ce matin sur les murs de son domicile à Rouen. Elle qui est la mère de la première victime de Mohamed Merah et qui depuis est devenue un symbole de la lutte contre la radicalisation. Des tags qui l'ont bien sûr bouleversée et qui ravivent la douleur de cette maman qui va porter plainte.
Ma maison, tout est taqué. Salle juive, vive Merah, on aura ta peau, Latifa bientôt. Ça m'a fait peur. C'est pas la première fois. La dernière fois, on était menacés, on avait des poubelles sur notre voiture. J'ai enlevé, j'ai dit voilà, je vais appeler personne. Peut-être c'est un fou qui m'a mis ça. J'ai pas pris ça au sérieux. Mais là, c'est grave, là. C'est une menace chez soi, quoi. C'est une menace pour moi, c'est une menace de mort. Il n'y a pas autre chose. Et pourquoi chez moi? Pourquoi? Je fais rien de mal, je traîne des gens. C'est ça que je comprends pas. C'est. J'essaye de sauver cette jeunesse, j'essaye de passer ce message de paix, j'essaye de... Pourquoi c'est... La paix, elle est aussi compliquée que ça.
L'émotion de Latifa Ibn Ziaten, elle était avec Chloé Triomphe d'Europe 1. Et dans un instant, c'est la suite de votre journal sur Europe 1. Il y a urgence pour les urgences. À tout de suite.
Europe 1. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h10, merci d'écouter Europe 1. Les personnels des hôpitaux sont à bout, ça fait des semaines qu'ils le disent. Ils n'en peuvent plus, on leur donne d'ailleurs régulièrement la parole sur Europe 1. Eh bien le mouvement devrait s'intensifier demain, une mobilisation nationale alors que le Sénat doit se prononcer justement sur la loi santé. Les professionnels de la fonction publique hospitalière veulent qu'on entende enfin leur malaise. Aux urgences en particulier, un service sur cinq est touché dans tout le pays. Des personnels en arrêt maladie. François Braun est le président de SAMU Urgence de France, il faut, dit-il, des mesures tout de suite.
Ça fait plusieurs années que SAMU Urgence de France indique que nous allons droit dans le mur. Là, maintenant, nous sommes dans le mur, avec des difficultés multiples, mais surtout une perte de sens pour les professionnels qui travaillent aux urgences. On ne sait plus quel est notre métier. On nous fait faire tout et n'importe quoi. On nous fait faire tout ce que les autres ne veulent pas faire, que ce soit à l'extérieur de l'hôpital ou à l'intérieur de l'hôpital. On s'éloigne de notre cœur de métier qui est l'aide médicale urgente. Et je pense que ça, c'est ce qui est le terreau de toutes les contestations et de toutes les manifestations de ras-le-bol, en fait. Les structures d'urgence, les services d'urgence sont à bout. On a beaucoup parlé de saturation de nos services. Et à cette saturation des services s'ajoute maintenant la saturation des personnels qui n'en peuvent plus de travailler dans ces conditions.
Le président de SAMU Urgence de France, joint pour Europe 1 par Ève Roger. Malgré la mobilisation demain, tous les patients, rassurez-vous, seront pris en charge. Toutefois, seules les opérations non urgentes pourraient être touchées. Et en ce lundi de Pentecôte, l'annonce d'une autre mobilisation, cette fois dans les maisons de retraite et les services d'aide à domicile. Ce sera le 1er juillet. L'intersyndicale des personnels souhaite obtenir la création de 40 000 postes. Il veut livrer sa version des faits. Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault, veut s'exprimer sur les 11 millions d'euros de dépenses douteuses révélées par un audit interne. C'était 4 jours après le débarquement que nous commémorions jeudi dernier. Le village d'Oradour-sur-Glane, à quelques kilomètres de Limoges, était le théâtre d'un massacre. Une centaine de soldats de la 3e compagnie du régiment d'Air Führer appartenant à la division SS Das Reich engageaient une expédition punitive. 642 civils exécutés, dont plus de 400 femmes et enfants, brûlés dans l'église du village, où s'est tenue cet après-midi une cérémonie d'hommage 75 ans après. Le reportage de Victor Dolande.
Pendant plus de 2h30, des officiels, mais aussi des délégations étrangères, de Dachau notamment, des enfants, beaucoup d'enfants venus de plusieurs villes françaises et allemandes, ont sillonné les rues de la nouvelle ville d'Oradour-sur-Glane. Direction ensuite le village martyr, un silence impressionnant. La foule traverse les rues de ce bourg figé dans le temps. Ici, une carcasse de voitures calcinées, là des plaques rappelant l'emplacement des commerces de l'époque. Parmi ces centaines de personnes venues se recueillir, Annette Rigon, ses parents furent le seul couple à échapper au massacre d'Oradour. Elle assiste chaque année à ces commémorations avec toujours autant d'émotions.
C'est une journée où il plane quelque chose ici. Je trouve que malgré toutes ces années, il y a toujours cette empreinte-là, ce ressenti.
Pendant ces moments, justement, vous pensez à quoi, vous ?
Je pense à mes parents. Bon, ceux qui sont partis, je ne les ai pas connus, bien sûr, qu'en photo, mais je pense à mes parents, ce qu'ils ont vécu ce jour-là. C'est inévitable.
Un dépôt de gerbes ensuite devant l'église où 450 femmes et enfants ont été fusillés et brûlés par les Waffen-SS. Enfin, pour clore cette cérémonie, les mots de Robert Ebras. Il est le dernier rescapé du massacre d'Oradour. Il a 93 ans aujourd'hui. Il s'est adressé aux jeunes générations. « Bientôt, je ne serai plus là. Ce sera à votre tour de vous souvenir. Je vous le demande. » À Oradour-sur-Glane, Victor Dolande, Europe 1.
Un nouveau rapatriement d'enfants de djihadistes. Ils sont 12 à avoir été remis hier par les autorités kurdes à une délégation du Quai d'Orsay. Des enfants qui, dans un premier temps, seront pris en charge par les services sociaux. Jeanne Bergaoui, que sait-on d'eux ?
Tout ce qu'on sait officiellement, c'est le Quai d'Orsay qui le dit. Il s'agit d'orphelins, d'enfants isolés ou particulièrement vulnérables. Ils se trouvaient dans les camps d'Al-Hol et de Roche, dans le nord-est de la Syrie. Certains seraient malades et dénutris. Le plus âgé a 10 ans. D'après nos informations, il y a 2 fratries de 2 enfants, notamment 2 frères et sœurs qui ne sont pas orphelins. Ce sont les seuls. Leur mère, emprisonnée en Syrie, a donné son autorisation pour leur rapatriement sans elle. Leur père, Yassine Sakam, originaire de Lunel, vient d'être condamné à mort en Irak. Dès que l'avion militaire a atterri tout à l'heure à Villacoublay. Ses enfants ont été auscultés par un médecin, puis pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est elle qui va les placer dans des familles d'accueil volontaires. A noter que 2 orphelins de parents néerlandais faisaient également partie de ce vol. Des représentants des Pays-Bas sont venus les chercher.
Les précisions de Jeanne Bergaoui. Un mort à New York dans le crash d'un hélicoptère spectaculaire au-dessus de Manhattan. Visiblement, les conditions météo étaient très mauvaises. Il a voulu se poser en urgence sur le toit d'un gratte-ciel. Il a pris feu. La course à la succession de Theresa May, officiellement ouverte depuis aujourd'hui, ils sont 10 prétendants. La première ministre sortante reste pour l'heure à Downing Street pour gérer les affaires courantes. Le foot, et après-demain, mercredi à 7h06, les Bleus joueront leur 2e match du mondial féminin face à la Norvège. Elles sont déjà arrivées à Nice où se disputera la rencontre. Cet après-midi, les Japonaises affrontaient l'Argentine. Elles se sont séparées sur un score vierge, 0-0. Et puis depuis un peu moins d'une heure maintenant, l'autre match du jour, Canada-Cameroun. 1-0 pour l'instant en faveur du Canada. En attendant donc mercredi, France-Norvège à suivre en direct en intégralité sur Europe 1, radio officielle de ce mondial féminin. Chez les Bleus, sans eux, cette fois, nos champions du monde joueront demain leur 4e match des éliminatoires de l'Euro. Ce sera en Andorre, l'heure du rachat après leur fiasco en Turquie. Et cette fois, changement de décor, donc, il devrait faire très froid, moins de 5 degrés. Les Français joueront sur une pelouse synthétique qui ne plaît pas du tout, paraît-il, au staff. On verra ce que ça donne donc demain. Et on jette un œil sur la météo avec vous, Elena Morna. On va pas tourner autour du pot, Elena. Demain, ce sera la pire journée de la semaine.
La plus grise et la plus fraîche, Isabelle. Gris et pluvieux sur la Bretagne et le Cotentin le matin, comme sur le sud Aquitaine, l'Occitanie, ainsi que la façade est en dehors de la Corse. Entre ces deux secteurs bien bâchés, des nuages, de rares éclaircies, de rares averses. Et puis l'après-midi, ça s'harmonise, un peu plus gris partout, avec des averses plus fréquentes, localement orageuses, là où vous aviez des éclaircies le matin. Pareil sur les reliefs de la Corse. Attention, les pluies seront soutenues dans la partie sud-est demain après-midi. Une petite échappée claire, quand même, sur les Alpes-Maritimes. Le tout dans une atmosphère atmosphère bien fraîche. D'ailleurs, on aura même quelques flocons à 1800 mètres sur les Pyrénées-Orientales, en plein mois de juin, décidément. Température demain matin, 5 à 9 degrés dans les terres, 10 à 18 sur le littoral atlantique ou méditerranéen. Et puis l'après-midi, on ne décollera pas de 10 degrés à Massa, c'est dans l'Ariège. 14 à Brest, 16 à Toulouse, 17 à Caen et Bordeaux. On est 7 degrés en dessous des normales de saison. 18 à Blois, Strasbourg, Lyon, 19 à Lille, 20 à Paris et Nîmes, 23 à Marseille et tout de même 26 pour Ajaccio. Alors ça ira mieux mercredi et jeudi sur l'Est et vers les Pyrénées avec de plus en plus de soleil, surtout en allant vers l'Est. Des températures qui remontent et dès vendredi, samedi et dimanche, on pourra espérer quelques éclaircies entre les averses sur le Nord-Ouest.
La météo signée Elena Morna.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Bertrand Cizeau, le directeur de la communication du groupe BNP Paribas. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h19, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse sur Europe 1 avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui démarre la semaine en nette hausse après l'accalmie sur le front commercial entre les États-Unis et le Mexique.
Oui, hausse pas très spectaculaire sur le Dow Jones, mais nette sur le Nasdaq. Le Dow Jones prend 0,3%, 26 063 points. Le Nasdaq, plus d'1% de hausse, forte hausse, 1,05%. Les valeurs de technologie en forme, donc 7 823 points. L'accord entre les États-Unis et le Mexique met fin au coup de pression de Donald Trump qui aura été de courte durée. Il est vrai que le dossier était plus simple que celui avec la Chine qui s'éternise. Le secteur de la défense s'agite ce soir à Wall Street avec l'annonce du rapprochement entre Raytheon et United Technologies pour une valeur d'entreprise de 85 milliards de dollars. Ça donne Raytheon en hausse de 0,6%, United baisse de 3%, Boeing est stable, Lockheed Martin moins 1%, et puis les technologiques grimpent après le rachat de Tableau Software par Salesforce pour plus de 15 milliards de dollars. Une grosse opération dans le big data. Ça donne donc des valeurs de technologie en forte hausse. Apple plus 1,2%, Amazon plus 3%, Intel plus 1,7%. Microsoft plus 0,9%. Le pétrole est ferme, il se stabilise au-dessus des 62 dollars le baril. L'euro campe au-dessus des 1,13. 1,13,20 face au dollar.
Et Didier, la bourse de Paris a également progressé dans le calme.
Oui, c'est très calme en raison de la Pentecôte. Le CAC 40 a gagné quand même 0,34%. 5 382,50 points. Ici aussi, l'accord commercial entre Américains et Mexicains a fait du bien aux indices. Le secteur pétrolier s'est plutôt bien repris avec le baril. Esso remonte de 4%, Vallourec plus 4,6%, Technip plus 3%, CGG plus 2%. Le secteur automobile va mieux, plus 2% Valeo, plus 2,5% Renault. Et puis Thales prend 0,5% sur le rapprochement entre Raytheon et United Technologies aux États-Unis.
Et puis, exception du jour, le titre Eurofins qui a nettement fléchi.
Baisse, nette baisse de 3%. Plus de 3% de perdu. Eurofins a été victime d'une attaque informatique début juin avec demande de rançon. Eurofins parle d'un impact significatif sur ses comptes sans encore le chiffrer. Ça donne quand même une nette baisse d'Eurofins en bourse, moins 3,3%, 356,60 €. Sur les autres places financières, Francfort était fermé, Vienne aussi, Bruxelles prend 0,7%, Madrid plus 0,6% avec Milan et le CAC 40 donc en hausse de 0,3%, 5 382 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Didier Hamot de boursier.com.
L'invité éco avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le directeur de la communication du groupe BNP Paribas.
Bonsoir Bertrand Cizeau.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur de la communication et le directeur adjoint de l'engagement de l'entreprise de BNP Paribas. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est pour faire un bilan de cette quinzaine de Roland-Garros. Vous êtes le partenaire historique, 46e année de présence sur Roland-Garros. Quel bilan justement vous tirez-vous de cette quinzaine ?
Il est franchement excellent, 530 000 spectateurs je crois, et il montre aussi à quel point il est important que les travaux se finissent et que le fameux toit que l'on attend tous l'année prochaine puisse intervenir. C'est le dernier grand chelem aujourd'hui à ne pas avoir encore cet équipement. Et les conditions météo de cette quinzaine ont montré que ça facilitera grandement les choses. Et c'est aussi une quinzaine qui a montré à quel point à Roland-Garros, il y a plein de choses à faire, en dehors même de voir du tennis. C'est une caractéristique de ce grand chelem. C'est le seul grand chelem de centre-ville. Mmh. On y fait plein de choses et c'est un atout.
Parce que l'US Open est très loin de New York, Wimbledon est très loin de Londres.
Bien sûr. C'est un magnifique lieu où les gens se rencontrent, les gens se restaurent, les gens peuvent faire des courses pour les fans de tennis, les gens peuvent jouer. Et c'est aussi ça, Roland-Garros. C'est un lieu qui progresse pour l'expérience tennis, mais aussi pour toute l'expérience que le stade offre. Il y a un musée qui progresse et qui est de plus en plus intéressant, etc.
Pour autant, ce Roland-Garros a créé la polémique pour un point. Les loges étaient vides. Les loges des sponsors, hein, dont vous faites partie, vous êtes le plus gros sponsor de ce Roland-Garros. C'était vide chez vous aussi, dans votre loge ?
Alors, ça n'était pas du tout chez nous. On a un taux de remplissage de 95%. Vous savez, on est le partenaire, vous l'avez dit, depuis 73, donc on a un peu d'expérience. Donc, on sait très, très bien que lorsque nous invitons nos clients, qu'ils soient entreprises ou particuliers, comme je le disais, ils sont très heureux de passer du temps à Roland-Garros et d'aller sur les cours. Mais ils font les deux. Mmh. Et donc, évidemment, il faut s'organiser de telle sorte que vous invitez beaucoup plus de monde que vous n'avez de place.
Donc, il faut faire du surbooking.
Bien sûr, c'est ce que d'ailleurs propose Guy Forget. Et il a raison. Il est inacceptable que les places soient vides. Il y a suffisamment de Françaises et de Français qui rêvent de voir du tennis sur le central de Roland-Garros pour que ces places soient inoccupées.
Mais j'ai envie de dire, vous êtes là, on le disait depuis 46 ans, ça crée la polémique quasiment tous les ans, mais cette année, encore plus. Cette année, on avait l'impression que c'était tout le temps vide. Il y a eu des matchs, des demi-finales, notamment femmes, qui se sont jouées avec personne.
Eh bien, ça n'est pas acceptable. Il faut trouver les solutions. Le tennis est passionnant, féminin comme masculin. Les conditions météo sont parfois plus ou moins bonnes. Et il faut s'organiser pour que, lorsque l'affiche est peut-être moins captivante, on donne la possibilité aux fans, aux amateurs de tennis, de remplir les stades. Nous, nous invitons sur la quinzaine 4000 fans de tennis. Ce ne sont pas des entreprises, ce sont des jeunes passionnés de tennis. Nous leur offrons ces places sur notre plateforme Bouillard Tennis. Nous avons 3 millions d'abonnés sur cette plateforme. Nous leur donnons la possibilité d'y aller. Je peux vous dire, quand on les invite, ils viennent.
Mais est-ce que vous trouvez normal que les demi-finales femmes se soient déroulées sur des cours annexes, et notamment sur le Simone Mathieu, qui est certes un cours magnifique dans les Serres d'Auteuil, mais qui est un tout petit cours?
Ça n'était pas idéal, franchement. Mais je pense qu'ils ont géré la situation du mieux qu'ils pouvaient. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut il faut pouvoir jouer à l'abri de la pluie. On est nous-mêmes les premiers à regretter que les femmes n'aient pas pu jouer leur compétition de la manière normale. On est très engagés pour le tournoi féminin, mais voilà, je pense que ça va se régler.
Alors, est-ce que ça dope encore votre notoriété ? Puisque quand on est là depuis 46 ans, pardonnez-moi l'expression, mais on fait partie des meubles.
Oui, mais aujourd'hui, vous savez, un grand sponsor, la visibilité, c'est important, mais en vrai, ce que les gens attendent, c'est qu'un sponsor soit utile. Un sponsor qui n'est pas utile, c'est un sponsor d'hier. C'est ce qu'on s'attache à faire.
Et également par le biais de votre team BNP Paribas qui doit déceler les talents de demain.
Oui, on se dit que la relève, si on peut apporter une contribution, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Italie, on a créé 3 teams pour aider aux côtés des instances sportives à fabriquer la relève de demain. Et on a mobilisé un investissement significatif sur ces 3 teams. C'est 60 jeunes emmenés par les McEnroe aux États-Unis, emmenés par Tatiana Gorbin en Italie, par Tsonga en France. L'idée, elle est simple, c'est que le tennis, c'est cher. C'est cher pour les familles, c'est cher pour les jeunes, c'est cher pour les instances sportives. Et donc, nous nous sommes dit, est-ce qu'on peut apporter notre contribution pour que le rêve ne s'arrête pas pour des raisons financières, lorsque soit les familles, soit les instances sportives...
Du coup, de façon très concrète, vous proposez quoi à ces jeunes ? Vous leur financez leur...
On aide dans le cadre du sportif, quand parfois il faut donner un coup de main pour le financement du coach, de l'entraîneur, des déplacements, des tournois à l'international. C'est ça qu'on essaye de faire. Être utile, c'est vraiment ce qui nous semble être le cœur, le rôle essentiel d'un sponsor moderne.
Vous êtes un des grands sponsors du monde du tennis, hein, puisque vous sponsorisez aussi de grands tournois, notamment aux États-Unis. Mais pour autant, vous avez décidé d'arrêter la Coupe Davis. La nouvelle formule ne vous plaît pas ?
Elle nous semblait pour le coup moins en phase avec ce que nous aimions à la Coupe Davis. Ce que nous aimions, comme beaucoup de Françaises et de Français d'ailleurs, c'était cette formidable compétition internationale qui se déroulait dans les pays, avec la passion des 5-7, avec le fait que le public local était là. Elle s'oriente vers quelque chose de nouveau. On lui souhaite le meilleur, mais ça nous
mais
semblait...
Mais ça ne vous va pas, c'est trop financier, c'est pas...
Écoutez, trop financier, je ne sais
pas. C'est pas vos valeurs.
Mais un peu moins. Et on aimait cette dimension un peu défense du drapeau de la Coupe Davis qui va peut-être être un peu moins présente. Mais on lui souhaite le meilleur parce que franchement, il faut que la Coupe Davis reste une grande compétition.
Et si ça marche, vous pourriez revenir ?
Qui sait ?
Qui sait ? Vous ne dites pas non en tout cas.
Comment ?
Vous ne dites pas non en tout cas.
On ne dit jamais non, mais l'argent ne fait pas tout dans le sport, loin de là. Et voilà, on sait dire non. Également, quand on est au présent de compétition, auprès de compétition depuis de très nombreuses années, Parce que, vous l'avez dit, les valeurs, le fair play, la combativité, la défense du drapeau, et encore une fois, le public. La Coupe Davis qui se déroulait dans près de 100 pays, c'était magique pour le public. C'est peut-être un peu ça que l'on va perdre. Et il ne faut jamais oublier les fans, les amateurs, parce que c'est eux qui font le tennis au quotidien. Et on est d'ailleurs, ça se sait peu, mais on est aussi, évidemment qu'on est le partenaire de Roland-Garros, mais on est aussi le partenaire de 500 tournois amateurs dans le monde. Ce sont ces gens-là qui font le tennis, y compris les familles, y compris le sport universitaire, y compris même le tennis en fauteuil. Peu de gens le savent, et c'est pas tellement le sujet, mais là encore, c'est une manière de se rendre utile sur des gens qui ont besoin d'un soutien financier.
Eh ben merci en tout cas d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Bertrand Cizeau, le directeur de la communication et le directeur adjoint de l'engagement de l'entreprise de BNP Paribas, était notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous et à demain, Emmanuel Luteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Hôpital, ça urge, titre Libération. Près de 90 services d'urgence en grève et une nouvelle mobilisation nationale prévue demain. Alors que le Sénat se prononce sur la loi santé, la ministre s'explique dans Libération. La crise des urgences met le gouvernement sous pression, nous dit également le Figaro. La grève commencée il y a 3 mois se poursuit, elle pourrait s'étendre à d'autres services. Malgré quelques mesures annoncées la semaine dernière, Agnès Buzyn n'a pas réussi à calmer la colère. Les grévistes veulent des réponses immédiates. Parlement européen, l'OPA de Macron fait des remous, nous dit le journal L'Opinion. Gare au complexe de supériorité, écrit Isabelle Marchais. Fraîchement débarquée à Strasbourg, les élus de La République En Marche veulent bouleverser de fond en comble l'alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Nouveau nom, nouvelle charte, nouvelle méthode, nouveau leadership. Ils prétendent tout revoir. Renault-Nissan, la brouille, titre quant à eux les échos. Le constructeur français s'oppose à la nouvelle gouvernance du japonais. Désaccord à Tokyo, revers à Turin et méfiance à Bercy. Un avion en papier aux couleurs du drapeau britannique est à la une du journal La Croix qui rappelle que la course à la succession de Theresa May commence. Les principaux prétendants entendent renégocier l'accord sur le Brexit de l'automne dernier. Pléthore de candidats pour succéder à Theresa May à la tête du Royaume désuni. Mais on n'en regarde qu'un, écrit Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. Tant sa présence tient de l'énormité dans un scénario du Brexit qui déjà n'a pas fait dans la dentelle. Boris Johnson, bien sûr. Génie de la formule pleine de punch et néanmoins vide de sens. Homme par qui le mensonge sur l'Europe a largement prospéré outre-Manche. Cet artiste du dérapage et du retournement ne se cache pas au fond d'une grotte pour faire pénitence. Fidèle à une devise qui exclut des mots tels que scrupule ou regret, il tente de rééditer sa performance. Après avoir intoxiqué son pays de statistiques fausses et participé à la rupture avec Bruxelles, il entend poursuivre sa carrière de manipulateur surdoué. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. En ce début de semaine, vous êtes en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle, ravie de vous retrouver.
Également Sophie. À tout à l'heure pour un nouveau point sur l'info.